Donc du coup, je reprends un peu le fil d'hier, parce qu'il y avait une slide que je ne vous avais pas montrée parce que je n'avais plus le temps. Donc on va revenir dessus. Je vais un peu développer comment nous on le développe sur un projet qu'on est en train de créer dans notre église. Comme ça, ça vous donne des choses très pratiques et pragmatiques. Et après, selon que vous avez envie, motivé, que vous ne dormez pas ou peu, il peut y avoir des questions-réponses. Donc soit pendant que je parle, ou juste après. Voilà. Moi, je pars dans 2 minutes, donc on a le temps de faire le tour du sujet. Au revoir, Yves. Tu m'entends? Ça va? Est-ce que la sono a fait le bon boulot? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Tu m'entends toujours? Tu m'entends? Et là, tu m'entends aussi? Et là, tu m'entends? Ah, la sono ne marche plus. Ils n'ont pas bossé correctement. Bon, c'est bien, en tout cas, ils ont bossé, là, l'équipe de la sono. Ils étaient au taquet, là. À table et tout, ils ont fait genre. Hein. Ils nous ont donné le change. Ok, donc. Je vais prendre un tableau, donc ceux qui étaient à Loco l'ont vu en partie parce que je n'ai montré qu'une partie à Loco, donc ça vous fera une petite révision pour ceux qui l'ont déjà vu, ou celle, parce que pour le moment il n'y a que des celles, et des autres ils arriveront peut-être. Et donc c'est un peu de réfléchir sur cette question à la fois d'identité et de travail en équipe. Donc la première chose, c'est qu'à la création, Dieu a donné 4 axes. Alors on pourrait décliner ça autrement, je sais, mais en tout cas, moi là, c'est ma lecture à moi, forcément. Donc, dans Genèse 1, 28, il dit « dominer ». Alors, attention, 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 attention à ce mot « dominer ». Parce que des fois, chez les évangéliques, on a l'impression qu'on est en conquête du monde. D'ailleurs, on avait un magazine qui avait fait la une en disant « les évangéliques à la conquête du monde ». Et alors ça, quelle horreur, hein. Donc, dominer n'est pas écraser et dominer n'est pas gouverner d'un point de vue politique. Un chrétien peut être élu, un chrétien peut exercer un mandat, mais l'Église n'exerce pas de mandat. Elle n'a pas cette fonction-là. Et il est hors de question qu'une Église soit mandatée pour gouverner. Donc, quand on dit dominer, on parle de perspective de gestion de la ville. C'est le mot polis, P-O-L-I-S, dans son origine, qui parle de gérer les relations humaines. Donc, si dominer va dans ce sens-là, oui. Si dominer va dans le sens d'écraser, dans le sens d'établir la théocratie sur la terre, vous savez, comme du temps d'Israël. Ouais, sauf que déjà, avec Israël, il y avait une séparation du roi et du sacrificateur. Le roi qui va faire le rôle de sacrificateur, il y en a qui ont essayé. Hein. Mais ils ont essayé. Voilà, et ils se sont fait mal. Un sacrificateur n'est pas le roi. Donc, il y a bien une séparation des pouvoirs chez Dieu, même en Israël. Donc déjà, c'est une bêtise de vouloir faire une théocratie, mais encore, si on voulait la faire, il faudrait au moins la faire dans les clous, si on peut caricaturer et résumer. Donc dominer n'a pas de sens d'écraser et n'a pas de sens de gouverner dans le sens d'être élu un gouvernement. Mais ça parle quand même de gouvernance, donc on ne peut pas non plus l'enlever. Le deuxième axe, c'est de garder le jardin. Et donc là, ça a un sens plutôt d'entrepreneuriat, ça a un sens de transmettre à la génération qui suit. Cultiver, c'est pour soi, pour manger. Je cultive des tomates, des carottes et des navets. Je mange les tomates et les carottes pour moi. Et je vous donne les navets si vous voulez. Donc on cultive pour manger. Donc il y a un sens de s'occuper de soi, soi et sa famille. Donc je cultive pour mes biens personnels ou familiaux, mais je garde pour les autres. Donc il y a bien cette logique qui rejoint donc 1.28. Et puis... on est une âme vivante, donc il y a la dimension humaine, qui ne peut pas être dissociée de la dimension spirituelle. Mais en tout cas, c'est un axe autre, qui est donc la spiritualité. Donc, diriger, servir, humanité, spiritualité. C'est 4 choses qu'on découvre d'emblée. Alors, on peut les dire autrement, sauf que moi, comme j'ai une intention cet après-midi, je les ai mis comme ça. Et vous allez voir en allant pourquoi je les ai mis comme ça. Donc, en parallèle de la création, parce que ça, c'est le mandat à la création, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout à la lettre, je peux vous le donner, c'est pour vous. On met en parallèle Israël. Je rappelle qu'Israël, combien de tribus? Presque gagné. On peut dire 11, on peut dire 13. Donc déjà, vous voyez, mais bon, allez, 12, soyons fous. Soyons fous. Donc 12, 3 fois 4, Ils sont rassemblés en quatre. Chacune, donc Judas, Ephraïm, Ruben et Dan, sont la tête de pont des trois autres. Donc on a des réseaux à l'intérieur d'Israël, si on peut parler comme ça. Donc les tribus fonctionnent par quatre et elles sont rassemblées. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et donc elles sont situées géographiquement à des endroits stratégiques. Judas ne se met pas au nord et Dan ne se met pas à l'est. Ils ont des emplacements stratégiques autour du tabernacle. Ils campent par quatre, et à l'intérieur de quatre, ils habitent par tribu, et par tribu, par clan, et par clan, par famille. C'est l'organisation. Là, vous voyez qu'il y a un côté très organisé, très structuré. Mais bon, c'est l'Ancien Testament, alors ça ne nous intéresse pas, hein, n'est-ce pas ? L'Ancien Testament, pour nous, nous qui sommes charismatiques, n'a pas besoin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les drapeaux, ils ont chacun une bannière. Et après, vous avez des bannières par tribu. Et donc, les bannières, ce n'est pas non plus moi qui l'ai inventé. Vous pouvez retrouver ça même sur Internet. Donc, Judas, ça, on le sait en général, hein. Sa bannière, c'est le lion. Ephraïm, c'est le taureau. Ruben, c'est l'homme. Et Dan, c'est un aigle. Et c'est en correspondance. Donc, le lion, le roi des animaux. Le taureau, celui qui va jusqu'à genoux, passer dans des endroits escarpés, et il va se blesser, si c'est nécessaire, du moment qu'il exécute les ordres de son maître. Donc il y a une notion de service très fort. La notion humaine, pas d'explication, ça va, je ne vous explique pas que l'homme c'est humain, c'est bon. Ce côté-là est encore mieux réveillé encore que l'autre. Décidément, hein. Décidément. Hein. Je ne sais pas si c'est le soleil, là, qui... On n'est pas sur la Méditerranée, à la Côte d'Azur, là. En plus, les lunettes et tout, je ne le crois pas, dit. Moi, on se croirait en vacances. Non, mais arrête, quoi. Non, mais remets tes lunettes, c'est une blague. Remets tes lunettes. Non, mais vas-y, ça ne me pose pas de problème. J'aime bien juste blaguer, moi, tu sais, c'est tout. Et puis Dan, c'est l'aigle. Donc, la dimension spirituelle d'être dans les hauteurs, c'est l'oiseau qui est le plus haut. Et il y a toute la notion qu'on va voir autour de l'aigle. Si on met la comparaison, oh mince, ouf. Ouais, ça, c'est pas top, hein. Donc c'est du rouge et ça ne marche pas. Donc là, on a mis la création en Israël, comme on le trouve, et là, on regarde Jésus. Donc Jésus est à la fois roi, serviteur, humain, divin. On est bien d'accord ? Et donc, la dimension roi, vous avez quatre fois dans l'Ancien Testament la notion de rejeton. Enfin, il y a plus que quatre versets, mais rejeton est associé à quatre choses différentes. Si vous prenez le rejeton 2, ouais, je crains que ça fasse... Bon, merci pour l'amélioration, mais ce n'est pas extraordinaire. Donc, ouais. Moi, je dirais le mauvais choix des couleurs du vidéoprojecteur, c'est ça que tu voulais dire. Donc, ah ben là, c'est encore mieux. Donc, l'aspect, le zoom, tu vois, Keston. Ben moi, je lisais bêtement mon... Bon, oui, c'est mieux, merci. Donc il y a le... Merci. Vraiment merci. Les autres se moquent, mais vraiment merci. Et on se demande qui se moque en plus. Donc rejeton, hein. C'est un rejeton qui se moque. Donc il y a le rejeton de David, c'est la dimension de roi. Le rejeton du serviteur, c'est Zacharie 3:8, c'est donc le serviteur. Le rejeton de l'homme, toujours dans Zacharie 6, eh ben c'est l'homme, c'est logique. Et dans Ésaïe, on a le rejeton de l'Éternel. Donc, si vous prenez si vous avez une recherche, une concordance, voilà, merci. Vous cherchez le mot rejeton, vous allez trouver une quinzaine de versets de rejeton qui s'adressent à Jésus, hein, on est d'accord. Et vous ne trouvez que quatre axes, soit roi, soit serviteur, soit humain, soit divin, point barre. C'est magique. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a ces quatre axes qui donnent du sens. Vous savez, il est parlé des... Il y a combien de fleuves là dans le jardin d'Éden ? Il y a combien d'évangiles ? Voilà, et vous avez plein de choses comme ça par quatre. Il ne faut pas surdimensionner les numéros dans la Bible, mais quand même, ce n'est pas non plus anodin. Et je ne sais pas s'il y a seulement quatre fleuves. Il y a des fois, c'est juste une symbolique. Et donc, il ne faut ni le négliger, ni le sur-symboliser. C'est comme les paraboles. Hein. Mais quand même, ce n'est pas pour rien. donne ça, si vous voulez, ça donne un sens de stabilité, quoi. Il y a la perfection qui ne se trouve qu'en Jésus. Hein. On n'a pas la prétention d'être parfait. Si on compare avec les évangiles, et c'est là que c'est pas plus intéressant que le reste, mais c'est intéressant de voir à quel point c'est marquant. Donc ce matin, on a dit, hein, Matthieu, c'est la dimension du roi. La lignée, donc la généalogie de Jésus, dans Matthieu, elle commence par Abraham, pas par autre chose. Voilà. Alors que dans Luc, la lignée, elle commence par Adam, la dimension humaine. À Abraham, la dimension royale. C'est magique. Ils ont fait exprès ou quoi? Ben oui. Et là, sur les quatre évangiles, là-dessus, je peux enseigner une semaine. Donc ça pour vous dire qu'il y a de la ressource, il y a de la matière dans chaque évangile pour affirmer que Matthieu, c'est l'évangile du roi. Et donc c'est l'évangile le plus enseignementique. Je me suis aventuré sur un chemin que j'ai perdu d'emblée. C'est l'évangile le plus dans l'enseignement. Et donc il est sur la pensée, la méthodologie, et c'est génial. Mais Marc est aussi génial. C'est l'évangile le plus court, c'est quasiment que des miracles, il y a très peu d'enseignements, et la généalogie commence par quoi? Il n'y en a pas. Parce qu'on n'en a rien à faire. Un serviteur, il est transparent, on n'en a rien à faire de sa lignée, si je peux me permettre comme ça, hein, de parler. Un serviteur, il reste serviteur, il est dans l'anonymat. Ben, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de lignée. Et vous, quand vous lisiez... Non, je ne veux pas savoir, hein. Mais des fois, en fait, quand on est en train de lire l'évangile, on passe à l'essentiel, c'est-à-dire on commence après la généalogie. Parce que la généalogie, bon, fils d'eux, hein, ce que je m'appelle Meyer, moi, je suis pas fils de Meyer. Et... Ah, pardon, j'avais pas vu que tu étais là. Des fois, fils d'eux, tu te dis, oh, mais j'ai pas envie de me... Pourquoi Jésus se présente comme fils d'eux? Est-ce que Jésus a besoin de s'identifier à l'humain à ce moment-là? Mais Jésus, il n'a pas besoin de même dans sa généalogie, d'avoir des gens un peu douteux ou des femmes douteuses. Ben justement, petit message à l'église machiste. Oups, pas à votre église machiste, hein, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à l'église en général. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, Marc, c'est de l'action, c'est court, c'est des miracles et aucune lignée. Luc, c'est Adam. Donc c'est la dimension humaine, forcément. C'est l'évangile le plus social, c'est lui qui parle des minorités, des femmes, des pauvres, plus que tous les autres. C'est le seul qui parle de la famille de Jésus de façon aussi détaillée et aussi nombreuse. Les autres évangiles, soit n'en parlent pas, soit l'abordent. Lui, il développe. Il y a cette dimension, et puis il y a ce côté habile. Est-ce que vous savez comment l'évangile de Luc commence? Après avoir été inspiré par le Saint-Esprit lors d'une réunion charismatique? Non? Non, mais non, ça c'est trop humain, ça. Donc il écrit, cher Théophile, comme pour les actes. Qui c'est Théophile? Mais c'est un notable, hein, d'accord? Donc il est de famille aisée, reconnue, et il a un pouvoir sur la société. Et donc c'est intéressant qu'un Luc, qui n'est pas dans le même... truc que les autres, arrive en disant, après avoir fait une enquête, après avoir fait un micro-trottoir, après avoir été chercher les chiffres à l'INSEE, tout d'un coup tu dis, ah ouais, ah ben moi je ne l'avais pas vu. Bah ouais, parce qu'on spiritualise tellement les choses qu'on en oublie les choses, les démarches humaines. Et là pour le coup, Luc a une démarche complètement humaine, et ce n'est pas antinomique par rapport à Jean. Mais Jean par contre, lui, d'emblée, au commencement... Donc là, tu n'as plus besoin d'avoir une lignée de fils de. Là, c'est direct le fils de Dieu. Il n'y a pas besoin de mettre des humains entre deux. Donc c'est juste énorme. Et c'est l'évangile de « je suis ». Dans une génération où on a un problème d'identité majeur, on dit qu'on n'a jamais eu, en tout cas, on n'a jamais identifié une crise existentielle et personnelle aussi grave que notre société, que notre temps d'aujourd'hui. Ben, les chrétiens, avec le fameux « je suis », devraient être en mesure de dire « je suis bien dans mes baskets ». Enfin, en tout cas dans mes chaussures, et je suis bien dans ma peau, parce que je suis issu de celui qui est. Ouais. Et donc c'est une notion d'éternité, d'identité et de spiritualité. Et vous voyez, à chaque fois, le complément, ça renvoie Et donc, est-ce qu'il vaudrait mieux être plutôt du côté de Jean, parce que c'est la spiritualité, nous sommes spirituels, n'est-ce pas? Eh bien non. Si tu es dans la dimension plutôt spirituelle, c'est autant une chance que si tu es dans la dimension plus humaine. Parce qu'il n'y a personne qui est à égalité sur les quatre, c'est pas possible. Donc on a forcément un marquage plus d'un côté que de l'autre. Il faut juste qu'on accepte qu'il faut cet équilibre et que cet équilibre parfait, il n'y a que Jésus qui l'a. J'allais dire Jean-Marc Potenti, je ne sais pas pourquoi. C'est... Donc l'équilibre est parfait en Dieu. Moi, je ne suis pas équilibré. Donc, ça on le savait, on n'a pas besoin de que je le dise. Ça se voit, il est un peu décalé le mec. Hein. Merci. Et donc, il ne s'agit pas que je sois parfait, il s'agit de dire, moi je suis plus dans l'humain, ben, j'ai besoin d'être aussi dans l'action, dans la pensée et dans la spiritualité. Si je suis dans la spiritualité, ben, j'ai besoin aussi d'être humain. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Je rappelle quand même que le corps, ce n'est pas Satan qui l'a créé. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Que les raisonnements, ce n'est pas le diable qui les a créés. Des raisonnements non soumis à Dieu peuvent être diaboliques, mais les raisonnements, c'est Dieu qui les a créés. Et donc, si c'est Dieu qui a créé, je dois l'utiliser pour lui. Il est étonnant que des fois, on perde notre intelligence sous prétexte charismatique. Mais moi, ma Bible, à moi, je ne sais pas la vôtre, elle dit « Tu aimeras Dieu de tout ton être, sauf ton intelligence. » Non, Marc précise « Et avec ton intelligence, ta pensée. » Ça veut dire que Dieu attend qu'on le serve aussi avec notre intelligence. Paul, que nous citons tous en référence et sur lequel nous n'avons pas beaucoup de doutes, Paul dit « Je chanterai par l'intelligence et je chanterai par l'esprit. » Je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit. Ou plutôt, c'est le contraire. Je prierai par l'esprit et aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et aussi par l'intelligence. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on le lise. Parce que quelquefois, on spiritualise tellement les choses qu'on en oublie l'humain et l'intelligence humaine. C'est pourtant un cadeau de Dieu. Donc si on regarde Ézéchiel, moi quand j'étais gamin, je détestais ce passage. Cette espèce de truc là, à quatre... Wow. Là, C.S. Lewis, il nous aurait fait un bon film avec ça. Un côté humain, un côté veau, ou taureau comme vous voulez, un côté... aigle et un côté humain. Ouais, je me suis trop planté dans le... un côté roi, enfin un côté donc lion et de l'autre côté le bœuf, le côté homme et le côté spirituel. Ça s'appelle comment le bien, bravo, waouh, let's applause, waouh, vous êtes magnifique. Ah, vous avez souffert. Bon, bah écoutez, je prierai pour vous sur la route du retour. Seigneur, libère-les de tout ça. Mais n'empêche que c'est pas pour rien. Si on a quatre évangiles, c'est pas juste pour faire le fun. On n'a qu'un livre d'Ésaïe. Hein. On n'a qu'un livre de Révélation. Pourquoi avoir quatre évangiles? Bah justement parce que c'est à tel point que Jésus se révèle en venant sur la terre et il montre qu'il est les quatre. Pleinement. Les quatre pleinement. Et il est parfait. Et il est bien le second Adam. Et il n'a pas de honte à être référencé dans les Adams. Moi, je ne sais pas, moi, j'aurais aussi un conseil à donner à Dieu. J'en aurais beaucoup à donner des conseils à Dieu. J'aurais beaucoup à lui dire. Sauf que ce ne serait même pas la peine de commencer parce que là, c'est même pas une question de level, c'est une question. Il n'y a pas de mots. Mais quand même, moi, j'aurais dit plutôt, de juste surfer sur le côté spirituel, puis c'est tout. Point barre. Puis, pourquoi s'embrouiller à passer par la dimension humaine et tout ça? Ça sert à quoi? Mais parce que Dieu, il a un message à nous donner et qu'il veut justement pas qu'on soit que dans un axe. Il veut qu'on soit sur les quatre. Et lui, il est parfait là-dessus. Et je lui aurais dit, ben, écoute, ne te présente pas comme le second Adam, parce que le premier n'est pas top. Hein. Il n'a pas bien terminé, le premier Adam. Hein. Il n'est pas d'équerre. Et Jésus se présente comme le deuxième Adam. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça vous fait rien. Allez, dernier point. La comparaison avec le MBTI que je vous ai mentionné hier. MBTI, c'est Carl Jung. C'est pas une référence. En tout cas, c'est pas la mienne. Je kiffe pas la psychologie de ce gars-là. Mais il faut rappeler qu'il était fils de pasteur. Lui aussi, il était fils d'eux. fils de pasteur, et son travail sur la sociologie, sur la personnalité, il les a basés sur les quatre évangiles, justement. Et il a fait une combinaison des 4 x 4, 16. Et donc, ça vous donne 16 tempéraments de base dans le MBTI, le MBTI, qui se découpent en quatre grands groupes, justement, aussi. Et c'est étonnant comme c'est tout à fait dans la logique. Donc, ceux qui sont SJ, donc quand vous faites le test que je vous ai donné hier sur le site, c'est gratuit. Ça prend un quart d'heure pour répondre aux questions. Il faut répondre le plus spontanément possible. Et une fois que vous avez rempli ce questionnaire, ça vous donne 4 lettres. Moi, par exemple, je suis ENTP. C'est des gens qui n'en ont pas trop sur la Terre, heureusement, parce que ça prendrait bien la tête. Et donc, il y a des logiques comme ça qui... Et vous retrouvez des logiques qui sont réelles, qui sont à la fois spirituelles et psychologiques. Et je trouve ça excellent. Donc, les gardiens sont plutôt dans le devoir, et ils ont plutôt comme apôtre la référence de Jacques. Et ils voient plutôt, ce sont des tendances, ce ne sont pas des boîtes, ce ne sont pas des absolus, on n'enferme personne dans une boîte. Et donc, ils ont plutôt une tendance de voir Dieu comme un. Donc, l'unité de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais senti que Dieu est amour, hein. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont une tendance plutôt à intégrer facilement que Dieu est un. Les artisans, ça donne bien du sens par rapport à serviteurs. Ils sont plutôt pour la liberté, c'est un mot fort pour eux, alors que l'autre c'est le devoir. Leur apôtre de référence c'est plutôt Pierre, et ils voient plutôt Dieu comme amour, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas que Dieu est un. Et ça ne veut pas dire que si je suis pasteur, je ne prêche que sur l'amour, hein, d'accord ? C'est juste une tendance et une facilité à aborder Dieu plus qu'une autre. Alors c'est dommage, on n'a rien en français là-dessus, ou quasiment pas. Il y a juste un pavé qui s'appelle « Façonner à son image », que je vous recommande grandement, 600 pages. C'est facile à lire. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est découpé en colonnes et c'est écrit tout petit. Donc c'est... Mais c'est 600 pages pour travailler sur soi, donc c'est génial. Mais non, n'importe quoi. Façonner à son image, et lui fait justement le lien entre ce qui est spiritualité, humanité, psychologie, sociologie... il a une approche qui est vraiment englobante, que je trouve qui est intéressante, et c'est Kenneth Boa. Kenneth, K-E-N-E-T-H, Boa comme Boa. B-O-A. Il dit des choses très intéressantes, et du coup, il donne aussi cette dimension par rapport au MBTI. Et il a 3 tableaux à la fin, en fin du bouquin, qui sont très intéressantes, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais, je crois qu'on a, là, dans les 10 ans, on a dû avoir 6 ou 7 bouquins écrits par des Américains chrétiens, sur ces questions de sociologie, psychologie de la personne. Je trouve intéressant qu'on a longtemps négligé dans nos églises. Il faut dire que la psychologie, c'est quand même diabolique. Hein. Parce que tu as le droit d'aller chez le docteur pour soigner le corps, mais le psychologue pour toucher à l'âme, non. On n'est pas un peu hypocrite ou un peu dans la dichotomie, là ? Si quelqu'un me dit, la psychologie, j'en veux pas, je suis que spirituel, et qu'il ne va jamais chez le médecin, ça, c'est cohérent et il a tout mon respect. Toi ? Mais si le gars qui démonte la psychologie va chez le médecin, il n'a pas mon respect. Enfin, j'attaque personne ici. Hein. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas ce que vous pensez. Et peut-être que là, vous êtes mal, mais il n'y a pas de méchanceté ou de... Mais c'est juste, voilà, il faut être cohérent. Donc, soit on dit, j'ai une âme et l'âme, elle a des mécanismes qui se répètent et qui se retrouvent dans certaines catégories de personnes. D'ailleurs, vous et moi, on est tous d'accord pour dire que les hommes sont plutôt ceci et les femmes sont plutôt cela. Non ? Que d'ailleurs, les hommes ne savent pas faire 2 choses en même temps. C'est bien, on va introduire un petit débat cet après-midi qui va nous réveiller. Bon, en tout cas, on est bien d'accord que les hommes ne sont pas des femmes, les femmes ne sont pas des hommes. Enfin, normalement. Si on n'est pas dans le monde de Michael Jackson, normalement, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Ce qui ne veut jamais dire qu'il faut une sous-catégorie. Hein, parce que soit on dérape sur la théorie des genres, soit on va dans l'autre sens. Hein. Il faut juste trouver le middle que la Bible a inventé. L'équilibre. Les rationnels. Ah, mais les rationnels, mon Dieu, mais c'est terrible ça. Le raisonnement. Surtout pour des Français. La France a été dédiée à la reine de la raison. Donc, par question que je raisonne. Moi, je suis chrétien, je ne raisonne pas. Bah, écoute, toi et moi, on ne va pas être copains, alors. Hein. En tout cas, on va essayer de ne pas se croiser trop souvent. Parce que c'est terrible. C'est une partie de ta personne qui ne sert pas Dieu. Et puis la dimension, donc on voit, c'est plutôt le savoir, alors que les autres devoirs et libertés. Et l'apôtre de référence, c'est plutôt Paul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire des choses de Jacques et vice-versa. Et on voit plutôt, je rappelle, et je vais redire encore que c'est plutôt des tendances et pas des absolus, on voit plutôt comme Dieu en tant que vrai. Et enfin, les normes françaises, les NF, sont des idéalistes. Et eux sont plutôt dans le devenir. Ils ont plutôt Jean comme référence, l'apôtre Jean. Ils voient plutôt Dieu comme étant bon. Ce sont des tendances et pas des absolus. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'autres choses. Donc ça, ça donne un peu une idée de ma destinée ou de ma personne. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que j'habite? Donc si jamais je suis plutôt dans la catégorie, ici, là, plutôt humain, ça ne veut pas dire que les autres, je m'en fiche, parce que tu comprends, ce n'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Et ça reprend une vieille chanson, s'il y a des gens dans la salle qui sont très vieux. Si je suis comme ça. Waouh, il y a de la culture. Donc il ne s'agit pas de dire je m'enferme, moi je suis humain, alors c'est comme ça. Non, non, il s'agit d'identifier notre tendance et de voir vers quoi je dois travailler, en sachant que je ne serai jamais parfait. Et que ce n'est pas parce que je suis humain que je dois devenir spirituel. Ça, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas du tout. Ça, c'est à laisser pour les évangéliques spiritualistes. Mais dans l'évangile de Jésus, ça ne veut rien dire, ça. Et donc, le fait d'être roi, ou serviteur, ou humain, ou spirituel, enfin, le mot, il prête à confusion, il est piégé, hein, même humain. Il s'agit donc de voir la tendance qui ressort. Et justement, le test du MBTI vous aide à faire ressortir cette tendance. Ça fait 15 ans que moi je travaille avec ça, et ça fait 15 ans que je vois que ça produit des choses chez les gens. Et ce n'est pas l'expérience qui garantit la vérité, hein. C'est la Bible qui garantit la vérité, point barre. Mais plus on a travaillé dessus, plus on a découvert des choses dans la Bible en se disant « Ah oui, on ne l'avait jamais vu ça ». Ben oui, on a des filtres. On a des filtres trop pacifiants, on a des textes qui sont magiques et des autres qui sont complètement laissés dans l'ombre. Et ce n'est pas bon. Alors peut-être un peu plus sur un peu plus de détails.
Je voudrais juste faire le lien avec notre passé Foursquare. Voyez ici, vous avez dans l'ordre Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans l'ordre des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc là, c'est Matthieu, voyez, la couronne, la royauté. Marc, c'est le serviteur, voilà, sacrifice. L'alliance, de la nouvelle alliance de l'homme. Parfait. Et puis, alors ça, on va le changer. On va mettre une cruche, c'est-à-dire la sainteté, sanctification. Là, c'est plutôt l'origine pentecôtiste du parler en langue, de baptême du Saint-Esprit. Mais il y a aussi ces éléments qui sont avec la cruche, qui est la consécration, sainteté, sanctification, qui rejoint effectivement Jean, quoi. Voilà, c'est ça, digne éternel. Ouais.
Donc, je ne savais pas que Foursquare partait là-dessus, mais effectivement, c'est intéressant. Donc, tu me dois un document, d'ailleurs. Sinon, j'arrête. Juste revenir un peu sur l'ensemble des évangiles et de pourquoi Matthieu est plutôt royal et pourquoi Marc plutôt serviteur, etc. Donc Matthieu, et je vous dis qu'il y en a une tonne comme ça. Ça, c'est juste un aperçu pour faire vite cet après-midi. Parce que je sais que vous voulez vite partir et moi aussi rentrer chez moi. Voir ma fille que je n'ai pas vue depuis 5 mois. Donc je ne resterai pas ici toute l'après-midi, ça c'est sûr. Donc, j'ai fait court. Enfin, j'essaye. Le premier miracle, dans chacun des évangiles, a un sens. Vous et moi, on ne l'a jamais vu. Parce qu'on lit la Bible. Sauf que ce n'est pas bien de lire la Bible. Vous en avez entendu souvent des pasteurs qui disaient « ce n'est pas bien de lire la Bible ». Je revendique que c'est lamentable de lire la Bible. Je revendique que lire la Bible, ça la déforme. Dieu ne nous a jamais demandé de lire la Bible. Il a demandé de la méditer. Et méditer t'oblige à étudier. Et donc faire sa petite lecture et j'ai une haine contre la lecture de la Bible en un an. Si vous saviez comment j'ai de la haine de ça. On a inventé une fabrique à lecture qui est malsaine. J'ai du respect pour les gens qui travaillent à la Ligue, je les aime, et il y a des copains à moi. Donc ce n'est pas les gens que j'attaque. Il y a mon cousin dedans qui est même à la tête de ce truc-là. Donc j'ai rien contre les gens. Et j'ai même de l'affection avec ce réseau. Ce que je trouve terrible, c'est qu'on pousse dans nos églises à la lecture et on ne pousse pas assez à la méditation. Ben moi, je dis dans mon église, je préfère que tu lises un chapitre par mois, mais que tu le médites. parce que ça transforme ta structure de pensée. Alors que si tu lis, ça ne fait qu'effleurer ta structure de pensée. Et Dieu veut changer notre structure de pensée. Il veut changer notre âme, parce que c'est mon âme qui donne le ton au reste. Donc, puisque mon âme est si fondamentale, je ne veux pas l'effleurer, je veux la travailler. Il faut absolument, impérativement se discipliner pour méditer la Bible et ne plus la lire seulement. Donc, maintenant que vous avez entendu le reste, vous savez que je pense qu'il faut la lire, mais pas en faisant un concours de je ne sais pas quoi.
Alors, tu as lu la Bible tu l'as lu en entier, et tu la lis combien en entier? C'est tous les ans ou tous les ans et demi?
Mais qu'est-ce que ça peut faire? Si tu la lis même en 6 mois en entier, ça change quoi? Moi, je me rappelle de quelqu'un qui un jour se targuait de dire « je lis 20 chapitres par jour ». Mais la première question moi qui me vient, c'est « normal, tu fais rien à côté ». Oups, pardon. Donc, si c'est parce que c'est Dieu qui t'a demandé, c'est légitime. Mais de le dire dans une église comme quelque chose qui écrase les autres, c'est pas juste. Donc, si Dieu t'a fabriqué pour lire 50 chapitres par jour, mais fais-le! Mais ne va pas dire ça en public en disant « moi, je lis 20 chapitres par jour, et toi, t'en lis combien ?» Un verset ? Mais c'est minable ! Ça veut dire quoi, ça ? C'est culpabilisant et destructeur. Donc, je redis dans mon église, je leur dis « je préfère que tu ne lises qu'un chapitre par mois, mais que tu le médites. » Ça ne m'intéresse pas de la lecture, parce que ça ne fait qu'effleurer ta tête, et ça te rassure, ça te donne bonne conscience. Moi, je lis la Bible, monsieur, dame. Et oui, monsieur, dame, parce que moi, je suis spirituel. Oui, monsieur, dame, ça ne sert pas à grand-chose. Médite, creuse, va chercher, et tu découvriras des petites choses comme ça qui sont pas, qui font pas grand-chose, mais qui changent la vie. Donc, premier miracle, c'est d'abord un acte social. Quand le premier miracle dans Marc, c'est un acte de supériorité. Et c'est normal que ça se passe par le serviteur, parce que sinon, on mépriserait le serviteur. Parce que le serviteur chez Marc, et même s'il va jusqu'à la souffrance, n'est jamais à mépriser ou à blackbouler. En tout cas, pas chez Dieu. Le premier miracle chez Luc, c'est un acte de puissance. Le premier miracle chez Jean, c'est le royaume à venir. Et c'est normal. C'est la spiritualité. Ah oui, moi je préférais la spiritualité. Non, il n'y a pas à préférer, il y a qui tu es. Et après, dedans, tu évolues avec là où tu es à l'aise et en faisant des efforts vers les 3 autres. Parce qu'on n'est pas les 4. En dehors de Florence. Il faut le répéter parce que sinon, je vais me faire lyncher à la sortie, moi. Donc le royaume des cieux, par exemple, c'est une expression exclusive de Matthieu. Il n'y a pas un autre seul évangile qui vous parle du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, oui, mais le royaume des cieux, c'est une exclusivité de Matthieu. Afin que s'accomplisse, et donc une référence à l'Ancien Testament, un rattachement à la promesse d'un roi qui va venir, un roi éternel. Marc, tel l'agneau, Jésus est en route vers le sacrifice. Donc on a dit en faisant les 4 points de Foursquare, c'est exactement ça. Le serviteur, il donne sa vie. Je rappelle que le bœuf, physiquement, pour du vrai, s'il est dans un endroit très escarpé, il se met à genoux, et même s'il est en sang, il va continuer à avancer avec sa charge jusqu'à ce qu'il soit passé de l'autre côté où son maître le veut qu'il aille. C'est le seul animal qui fait ça. Et c'est normal, c'est le bœuf. Le roi des serviteurs. Le roi des animaux, c'est là-haut, là c'est le roi des serviteurs. Et puis c'est Jésus qui dit à plusieurs reprises, ne dites pas, ne dites pas. Mais Jésus, tu veux vivre caché? Non, c'est le serviteur ne veut pas la pub. Le serviteur ne veut pas les projecteurs, le serviteur veut rester incognito. Et donc il y a toute une logique comme ça qu'on pourrait développer. Donc l'enfance de Jésus, l'incarnation dans l'humanité, c'est l'enfance de Jésus, il n'y a que dans l'évangile de Luc. La famille, on l'évoque dans 2 autres, mais on ne fait que l'évoquer. Là, on creuse et on parle de son enfance. La venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour les humains. Et donc il y a cette notion d'alliance, pardon. Et puis, chez Jean, le fameux « je suis », 57 fois, c'est-à-dire que 71% des « je suis » sont dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard. Et puis, je vous dis, si vous en voulez, j'en ai une tonne comme ça. Ça tient sur 50 pages en police 12. Marge 1, 5. C'est pour dire qu'il y a de la matière. N'importe quoi, et tu te fiches de ma tête en plus, toi. T'as de la chance que ta mère a de la bonté, du bonté, parce que sinon, ça ne marcherait pas. La vie éternelle, 68%, c'est utilisé. Donc, si on prend les quatre évangiles, 68%, et des pourcentages, je vous en fais une tonne comme ça. Des datas sur les évangiles, c'est génial. Là, il y a de quoi faire du big data, là. Hein ? C'est parlant. Ah, si je vous avais mis tous les pourcentages, ça sera encore plus impressionnant. Ok. Voilà, c'était juste pour donner un peu des idées. Comment ? Oui, on peut négocier. En tout cas pour la famille. Les autres. La famille, laquelle ? La mafia ou quoi ? La calabraise ? Ok, donc, peut-être juste quelques exemples de comment nous on le vit dans notre église actuellement, et puis après on peut avoir éventuellement un échange si c'est utile ou si vous en avez besoin. On implante une église depuis 2 ans et demi, on est 15. On a 5 personnes qui sont dans un parcours alpha, et puis 5 autres qui vont refaire un début de parcours alpha en septembre. Donc on a une dizaine de personnes, on est en train déjà de réfléchir à un deuxième groupe, puisque nous on garde des petits groupes, on ne veut pas dépasser 20 personnes, c'est déjà beaucoup. À 15 en tout cas, on réfléchit déjà au deuxième groupe, et quand le deuxième sera à 15, on réfléchira à un troisième groupe. Donc ça c'est pour donner un peu le contexte. On a d'emblée dit, on veut que notre église soit à la fois missionnaire et culturelle. Et je ne parle pas d'association, je parle du mandat culturel et du mandat missionnaire. Et on ne veut pas choisir entre les deux, parce que Jésus ne nous a jamais demandé de choisir entre les deux. Du coup, on travaille autant sur l'évangélisation, donc on en a parlé hier avec le freestyle, et aujourd'hui je voulais parler du côté plus culturel, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la société. On a choisi de créer une coopérative qui crée de l'emploi. Donc on vient d'embaucher un chef de projet le 1er février dernier, et on ouvre l'entreprise en novembre prochain pour créer 22 emplois. C'est très précis, enfin c'est 22 minimum en fait, hein. Ça fera plus, tant mieux. Donc je ne sais pas si vous trouvez l'erreur là, mais on est 15 dans l'église et on veut créer 22 emplois. Ça fait comment que c'est possible ? Donc on a mis de l'argent de côté, on a investi. D'ailleurs à chaque fois que vous achetez un livre, il y a 1,50€, voire plutôt 2€ qui partent sur cette entreprise. Ça, c'est un choix personnel, hein. Je ne vous ai rien demandé. Et dans notre église, on a plusieurs qui sont partis dans cette logique-là. Donc on a constitué une cagnotte et on a été chercher les fonds. Donc là, on a commencé l'entreprise avec 50 000€ qui nous sont donnés sans retour. Ce n'est pas des prêts. Et c'est des collectivités territoriales, c'est des fondations. Donc 50 000€. Mais ça, c'est rien, c'était la première étape. En novembre, on a besoin de 200 000. Donc on ira chercher les 200 000 et on aura ce qu'il faut pour y aller. Donc ce qui est intéressant dedans, c'est que ça nous a obligés à travailler. Si vous ne voulez pas que le projet il capote ou que ça fasse flop, ou qu'il n'y en ait que 2 ou 3 qui soient motivés par le projet, il faut bien que vous travailliez à qui on est, à notre destinée, pour que chacun prenne sa place. Et celui qui est chef de projet n'est pas le porteur de projet. Le porteur de projet n'est pas le chef de projet. Et chacun trouve sa place. Donc ce n'est pas les 15 de l'église qui vont être dans la coopérative salariée. Il n'y en aura pas de notre église qui seront salariés dans la coopérative. C'est pour d'autres qu'on crée l'emploi. Donc il y aura des chrétiens, certes, mais ce n'est pas une entreprise pour les chrétiens. C'est une entreprise du royaume qui s'adresse à toutes les personnes. Donc ce qu'on a dit hier sur l'équipe, on se l'est appliqué à nous depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé, depuis 3 ans, puisque c'était 6 mois avant qu'on implante l'église, on avait commencé ce travail. C'est pour dire que quand on travaille sur l'identité, la destinée et un travail d'équipe, ça produit forcément quelque chose. Alors, n'essayez pas de produire une coopérative, ne venez pas nous copier, ça nous ferait de l'ombre. Non, c'est une blague. Qu'on puisse créer 100 coopératives en France, et ce sera génial. Mais c'est juste, il ne s'agit pas que chaque église fasse ça. Quoique l'inventeur du Crédit Mutuel, qui est un chrétien, très engagé, lui disait une église, une coopérative. Il y en a qui disaient une église, une école. Lui, il a dit une église, une coopérative. Bon, vous allez sur le site du Crédit Mutuel, on vous dit juste que c'est Raiffeisen, c'est son nom, c'est un Allemand, a inventé le Crédit Mutuel. On oublie de vous dire qu'il a appuyé sa théologie, enfin son action sur la théologie. Mais bon, on ne va pas en vouloir aux Français qui nient les choses spirituelles. Et d'ailleurs, toutes les banques coopératives sont soit issues du Crédit Mutuel, soit de la Caisse d'épargne qui a été créée par un luthérien ou un réformé, je ne sais plus. Non, un luthérien. Donc c'est un peu moins évangélique, mais quand même, il y a des valeurs. Bon, aujourd'hui, les banques coopératives, elles ont de coopératives, surtout le nom. Mais quand même, depuis un an et demi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils font de la pub à nouveau. La Caisse d'épargne fait de la pub sur banque coopérative. Bah, il y a 5 ans, elle ne le faisait pas, ni il y a 2 ans. Mais comme c'est revenu à la mode, et que le gouvernement a pondu une loi qui, pour le coup, est géniale, et que les chrétiens devraient s'emparer, donc nous, on a créé une intention. Dans notre groupe, on a dit, on veut occuper l'espace dans l'économie. C'est notre mission, c'est notre mandat, on considère que c'est ce que Dieu nous dit. Et pas parce que moi, je suis le principal, juste parce qu'on a considéré que c'était notre mandat. Ça se trouve que forcément, ceux qui sont dedans jouent aussi, et donc le principal joue aussi un rôle. Donc moi, j'ai repris des études dans cette intention-là. Et donc, on s'est réparti des rôles, on s'est réparti des fonctions, on s'est réparti des missions entre nous, en disant, toi, t'es telle tendance de tempérament, voilà ta destinée, toi, tu fais ça. Toi, t'as ça, 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 et tu fais ça. Et on se répartit les rôles, et du coup, on a une répartition de l'effort qui fait que... Bah écoutez, moi je suis heureux, on est en train de réaliser quelque chose là qui était un rêve depuis des années. Et donc on a une intention, on a dit on va faire ça, et puis on veut que, bah Luc il a repris des études, donc lui on va le soutenir dans son master. Moi je suis devenu ingénieur, j'ai dit je veux donner des cours à l'IUT, parce que je veux rentrer dans le monde universitaire. Bien sûr il y a la stratégie de Dieu, hein, je veux dire c'est pas nous qui l'avons fait grâce à nos biscottos, c'est parce qu'on a réfléchi, prié et que Dieu nous a inspiré. Mais ça veut dire que c'est possible, et si on peut le faire à 12, 15 ans, ben on peut le faire à plus. Amen. Non ? Et donc, c'est à vous de trouver quels, au pluriel, quels projets. Il y en a qui peuvent être des projets qui semblent simples, et ce n'est pas une faute. Il n'y a pas de hiérarchie de projets. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie d'impact non plus. Il y a des gens qui ont un grand impact, et c'est aussi bien que celui qui a un petit impact. Si celui qui en a un grand dans la mission n'en fait qu'un petit, c'est une faute. Mais celui qui en a un petit qui cherche à faire grand, c'est une faute. Vous me suivez ? Donc on ne cherche pas le résultat, on ne cherche pas l'impact, on cherche juste à faire la mission que Dieu nous a donnée. Et pas pour changer la société d'abord, mais d'abord pour faire le mandat que Dieu nous a donné. Et pour être ambassadeur et dire, attention, bientôt le royaume de Dieu vient. Et il vient quand Jésus sera là, hein, pas avant. Pas avant. Ça c'est de la théologie débile. Et toc. Jésus, il va venir, lui, instaurer le royaume parfait. Avant, il n'y a pas de royaume de Dieu parfait. Avant, le royaume est juste là comme un sursaut, comme des indicateurs que Jésus va venir bientôt avec son royaume parfait. Et c'est seulement dans ce royaume parfait que le lion côtoiera l'agneau. Et avant, il n'y a rien qui dit que le lion côtoiera l'agneau. Ou alors, s'il se côtoie, c'est pour que l'un soit dans l'autre. C'est de l'affection à sens unique. Je me donne. Je donne tout. Et l'autre, il prend tout. Donc, voilà, ça c'est. Donc, on a travaillé là-dessus. Et donc, dans notre travail d'équipe qu'on a institué, qu'on a instauré, sur lequel on a pris du temps, hein, ça prend du temps, c'est pas en un coup de baguette magique. Nos 3 ans aboutissent là, à la création en février d'une une étude de faisabilité qui nous amène en novembre à la création de la coopérative. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une intention. Dans un petit groupe, on peut avoir une intention. Et c'est biblique. Il y a plein de gens dans la Bible, et Dieu en premier, qui ont une intention. Quand Jésus donne sa vie sur la croix, il n'a pas l'intention d'être dans le désintérêt, comme souvent les chrétiens le disent. Ah, mais Jésus est désintéressé dans son amour. Ah bon ? Ben moi, je crois que Jésus il veut que le maximum de gens soient sauvés. Donc, il est intéressé. Il est désintéressé dans le sens qu'il a donné sa vie avant que toi et moi en répondent. Mais il est intéressé parce qu'il veut du résultat. Ouh, on n'aime pas ce mot résultat. Et pourtant, il fait partie du royaume de Dieu. C'est le résultat industriel qui n'est pas de Dieu. Mais le soi-disant, je ne sais pas moi, sans intérêt ou sans intention n'existe pas chez Dieu. Dieu, il a une intention, sauver tous les hommes. C'est l'intention de Dieu. Donc il y a bien des intentions en Dieu. Et il veut qu'on ait des intentions. Je disais tout à l'heure à table, je ne sais plus à qui j'étais à ce moment-là, mais bon bref, je ne sais pas si on était déjà tous à table, mais on était à la table des VIP là, tu sais, et on échangeait sur, moi j'aime beaucoup l'histoire avec Moïse là. Moïse, il arrive voir son beau-père, Jéthro, donne-moi-en, et il arrive, il dit, ouah, des miracles et tout, génial et tout, Et Jéthro, enfin, en tout cas, il nous semble qu'il reçoit ça avec beaucoup de distance. Ouais, super, super. Donc, on va dire, on a le charismatique qui vient voir l'évangélique, en gros. Il y a des miracles. Et Jéthro, il dit, tranquille, Émile, relax, Max. t'énerve pas, il y a un mur en face. Dis, écoute, c'est bien tes miracles. Mais moi, voilà le conseil que je te donne. Prends des chefs de 10, de 50, de 100. Stratégie humaine. Et ce n'est pas un juif qui lui donne cette stratégie. Et je trouve ça génial. Et j'aimerais que nous, les églises, les chrétiens, on ait un peu plus de sens stratégique. Et il y en a plein dans le Nouveau Testament aussi. Hein. Donc, il faut développer cette stratégie. Et c'est possible quand on est dans un petit groupe. Parce que ça donne une puissance et une efficacité. On dit que les églises méga-church ne produisent quasiment aucun effet sociétal. Étude américaine réalisée par plusieurs courants religieux, en tout cas protestants. Je ne suis pas à l'origine de cette commande de et ni des résultats, ni même j'ai été consulté, et heureusement, ça aurait été pire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'impact est quasi nul. Et j'aime la stratégie, je vous l'ai mentionné, je pense, hier, du piétisme. Enfin, en tout cas, dans l'origine du piétisme, parce qu'après, être piétiste aujourd'hui, c'est plutôt négatif. Mais le piétisme, dans le sens du réveil au départ, c'est on a des petits groupes qui ont une stratégie d'implication dans la société. Patrick, si vous l'appelez Saint-Patrick, vous m'appellerez Saint-Luc. Patrick, en Irlande, un catholique, a fait aussi ça. Il a une stratégie de petits groupes qui ont un impact. Et c'est souvent eux qui ont le plus d'impact dans la société. Impact pourquoi, Luc ? Nous sommes là pour adorer Dieu. Oui, pour adorer Dieu et servir le monde. Vraiment. Vraiment, c'est ce que Dieu nous demande. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas l'un ou l'autre. Il y a juste un en premier et l'autre en deuxième, mais il y a bien les deux. Je sers Dieu, et parce que je sers Dieu, je sers les hommes. Mais ce n'est pas juste je sers Dieu. Et dans un petit groupe, ça, on peut le concrétiser. Voilà. Donc moi, je donne des cours à l'IUT, par exemple, et on a l'intention que je devienne le professeur de la chaire. Oui, c'est déjà une chaire, là, ici, mais ça ne vaut pas très cher. En fait, l'université aujourd'hui, elle n'a pas l'obligation d'enseigner l'économie sociale et solidaire. Donc l'IUT où moi je suis à Lens m'a demandé de le faire. Je pense que l'obligation va arriver d'ici 3-4 ans. Donc ils ont voulu anticiper. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de prof qui a fait le cours. Donc déjà, j'invente le cours tout seul. Je suis mon propre baromètre. Je fais ma propre analyse de cours, est-ce qu'elle est bien ou pas. Ça, c'est un peu débile par contre. Mais bon, soyons fous, le monde est fou alors. Donc la première année, on n'est même pas fini que la directrice valide auprès du doyen que c'est bon. Et donc on est déjà en train d'anticiper la deuxième année, on va faire des réajustements, surtout moi en fait dans mon cours. Et la troisième année, si c'est validé, ça devient une chaire. C'est celui qui a travaillé pour la chaire qui devient le prof de chaire. T'imagines le pied de nez ? Un pasteur ? Qui ? Oh, je trouve, non, c'est kiffant. Ben, ça vous fait pas rire, mais moi, ça je me retiens parce que sinon, je pète de rire. Parce que franchement, je trouve ça mais alors totalement saugrenu. Par exemple, je suis prof vacataire. Les profs vacataires n'ont pas un droit universitaire. J'ai une adresse université.fr. Le gars de la DOSI, le gars du responsable informatique, je l'appelle parce que j'ai un bug avec mon mot de passe. Et je lui dis, écoutez, j'ai un problème, machin. C'est pas grand-chose, je vous arrangez ça. Et puis je dis, pendant que vous y êtes, j'aimerais bien avoir l'accès à la médiathèque depuis chez moi. Il me dit, non mais attendez monsieur, non, vous travaillez sur site. Quoi, j'ai une tronche à travailler sur site moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Non, je travaille dans le train, dans l'avion, mes cours c'est là que je les prépare. J'ai pas le temps de les faire autrement, moi j'ai d'autres vies à côté, j'ai d'autres métiers. Et un métier monsieur. Non, faut pas dire ça, quelqu'un dans l'informatique, il aime pas. Il y en a Non, je ne le pense pas. Et donc, on parle et il me dit, non, c'est pas possible. Bah, je dis, vous ne pouvez pas m'arranger un coup, enfin, dans le sens officiel. Non. Il me dit, non, ça, c'est demande. Vous demandez directement au doyen. Moi, je n'ai pas de pouvoir dessus. Je ne peux même pas faire la boîte de relais, la boîte postale. C'est à vous de demander directement au doyen. Je dis, bon, c'est mort. Alors, le temps que je demande que le machin administratif se mette en mouvement et que d'ici 2 ans, peut-être, j'ai une réponse dans 5 ans. Eh ben, c'est bon, je laisse tomber. Il me dit, bon, je comprends. Il me dit, de toute façon, vous avez quasiment pas de marge. Hein. Il dit, de toute façon, vous, les profs vacataires, vous êtes dans une boîte qui est mal foutue. Il dit, oui, merci, je sais. Déjà, on est sous-payé par rapport aux profs normaux et on n'a pas tous les avantages, malheureusement. Et puis, je ne sais pas, on parle. Et puis, il me dit, par contre, j'ai entendu votre nom, vous enseignez un cours spécial, je crois. Je dis, oui, l'économie sociale et solidaire. Ah, ça m'intéresse. Donc, on papote et on échange. Ça dure un quart d'heure. Je suis en train de me dire, pétard, je perds mon temps, zut, quoi. C'est bien sympa, mais qu'il vienne à mon cours, quoi, s'il veut le gars. Mais là, je n'ai pas le temps. Et puis, je pense qu'il était en train de tapoter. il tapotait sur son. Parce que c'est un homme et il sait faire deux choses en même temps. Et. Hein, c'était bien placé, franchement. Vous achetez les mecs. Merci. Respect. Et il me dit, mais c'est pas possible. Puis il commence un peu à s'agacer, mais c'est quoi ça? Mais attendez, je comprends pas. Il dit, mais vous pouvez m'expliquer là? Vous êtes tout seul là, dans votre monde là. Vous m'expliquez là ce que vous faites? Il me dit, en fait, vous avez une adresse université.fr. Bah, je dis, merci, j'aimerais être au courant quand même. Parce que ça m'ouvre plein d'avantages, y compris d'avoir 31 000 accès à des cours gratuits que normalement tu payes. Donc rien que ça, je le veux. Hein. Il me dit, mais oui, mais c'est pas normal. Vous avez fait quoi, vous? Vous avez un statut particulier? Vous avez une position spéciale dans la société? Il me dit, mais je comprends pas. Donc mes autres profs vacataires, ils les ont là. Parce que lui, il a une université.fr et nous, non. Mais ça, c'est les miracles de Dieu. Mais si tu travailles pas, ça n'aboutit pas forcément. Fais ce que tu peux faire et Dieu fait le reste. Ramène tes pains et tes poissons ridicules, minuscules, ridiculement débiles. Qu'est-ce que tu veux faire, 5 pains, 2 poissons là, avec 5 000 hommes? Donc 5 000 hommes, au moins autant de femmes. Et les familles en Israël à l'époque, ce n'est pas des familles nucléaires. Hein. Donc tu peux te dire que, allez, si on est à 15 000 personnes, on est vraiment au plus bas. 15 000, qu'est-ce que tu veux faire avec tes ridicules poissons pains là? N'importe quoi. Moi, je comprends les disciples. Moi, je pense que j'aurais remballé le gamin en disant, écoute, c'est magnifique, super tes pains et tes poissons, c'est très gentil. Tu diras merci à ta maman pour le bon de pique-nique. Va les manger dans un coin, les gens, ils vont te piquer le pain, quoi. C'est juste énorme, non? Non? Bon, je sais, vous dormez, mais quand même, moi, je trouve ça sidérant. Donc, c'est ça, une équipe. C'est ramener les 5 pains et les 2 poissons. Et Dieu fait le miracle à partir de ça. Il n'a pas fait le miracle avant et c'est volontaire de la part de Jésus. C'est stratégique, c'est de montrer que si toi tu amènes ta part, lui il fait le business. Fais ce que tu peux faire et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Ah ça c'est bon, j'achète, je le redis. Fais ce que tu peux faire et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Tu ne sais même pas si c'est une citation, si c'est une citation de je ne sais pas. Bon bref, je l'achète, je la prends. Elle est à moi celle-là. Je mets un... Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Si vous avez une équipe pour une équipe, bof. Si vous avez une équipe de sono, bah on est content, on a une nouvelle sono, alors super, on va s'amuser. On va jouer au petit bouton pendant un petit moment. Et puis s'il n'y a pas d'intérêt derrière, s'il n'y a pas d'enjeu, bah ton équipe ne sert pas à grand chose. Elle sert sur le plan technique, mais elle ne sert pas dans une idée de projet ou de prospective ou de faire quelque chose d'autre. Tu as l'équipe pour responsable enfant. Mais si c'est pour juste faire l'école du dimanche, je m'excuse, mais ça ne sert à rien. Oh, Luc, quand même. Non, ça ne sert à rien. Enseigner dans l'église, si c'est juste pour enseigner, ça sert à rien. Si c'est pour que le mec il s'écoute parler et se faire plaisir, ça n'a pas de sens. Ouais, disons-le. Si on enseigne parce qu'on a une intention, parce qu'on a une perspective, une prospective même, alors oui, il faut le faire. Et oui, l'équipe a du sens. Et oui, l'équipe va permettre de ramener les petits pains et les petits poissons. Et ça va faire des miracles. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on arrête là. Comme ça, ouais. Cette coopérative, donc, c'est une coopérative d'activité d'emploi qui va embaucher des gens qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas envie d'avoir le statut d'auto-entrepreneur parce que les démarches administratives, juridiques et comptables ne les intéressent pas ou les dépassent ou qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont un emploi qui est déjà chronophage. Donc, nous, la coopérative prend en charge ces trois choses, administratif, comptabilité et juridique. Et l'entrepreneur ne s'occupe que de son métier. Et ce qui est cool, et c'est unique en France, c'est qu'il peut être salarié. Enfin, c'est pas il peut, c'est il est salarié de la coopérative. Donc c'est unique en France, vous ne voyez ça nulle part ailleurs, et c'est la loi de juillet 2014, dont les applications sont en cours de se réaliser, c'est-à-dire depuis novembre, les décrets d'application ont paru dès novembre. On a des décrets d'application qui sont là, valides, depuis janvier, et on en a d'autres, pour finir la loi, qui sont concrétisés en juin. Donc là, on a une fenêtre incroyable. Nous, on a voulu créer cette coopérative avant les décrets d'application, donc on ne savait même pas que ça allait aller aussi vite. Parce que je vous dis qu'il y a des lois, hein, les décrets d'application, il y a 10 ans qu'elles ont été votées, et les décrets d'application ne sont toujours pas en route. Hein. Donc une loi, ça ne veut rien dire. Hein. Donc là, les décrets d'application tombent, tant mieux. Donc la coopérative, la CAE, coopérative d'activité d'emploi, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, et si, sur Google si c'est votre ami, vous tapez CAE et vous trouverez tous les renseignements liés à la CAE. Donc on a des entrepreneurs, surtout dans une ville pauvre comme la nôtre, où les gens n'osent pas aller parce qu'ils ont peur de la thune, qu'ils vont se faire griller, ou ils ont peur que, comme les 3/4 des auto-entrepreneurs, dans 2 ans, ils ferment boutique parce qu'ils sont débordés par la gestion administrative, juridique, comptable. Nous, on prend ça en charge, eux, ils sont salariés. Si demain, ils arrêtent, ils récupèrent les minima sociaux ou le chômage. Alors que quand tu es entrepreneur, walou, si jamais tu arrêtes, ben, t'attends pour avoir la CEDIC et compagnie. Voilà, ça, c'est pas mal d'avantages comme ça. Et donc, l'entrepreneur, il a plus besoin de s'enregistrer auprès du CFE, auprès de, on va dire, des centres d'enregistrement des entrepreneurs. Donc, c'est la coopérative qui le fait. Et si jamais, par exemple, on dit Yves, il est entrepreneur, il est peintre en intérieur, et moi, je veux l'embaucher, puis je me dis, mais ça, c'est un entrepreneur tout seul, donnez-moi votre numéro de SIRET. Donc, il donne le numéro de SIRET, qui est le numéro de la coopérative. Et là, je me dis, ah ouais, c'est une entreprise de 25 salariés quand même. Ah oui, ça rassure. Donc, il y a plein d'avantages comme ça qui sont très pragmatiques et très pratiques. Voilà, donc on est parti pour créer cette entreprise. Donc, c'est un ami qui est pasteur. C'est pas de sa faute, il est aussi mon beau-frère. Il est pasteur à Béthune, donc à une demi-heure de chez nous. Et lui, il est chef de projet. Et moi, je suis le porteur de projet. Donc, moi, en tant qu'ingénieur, ça donne du crédit à la structure. Et lui, en tant que chef de projet, ça donne un autre crédit que moi, je n'ai pas. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on a réparti les rôles. Et donc, ça veut dire que des fois, dans une équipe, on peut aussi externaliser. Oula, ça, c'est un mot pas bien. Ouais, c'est dans Jérémie 24-7. Non. On peut aussi externaliser avec d'autres. Et c'est ça aussi la richesse de travailler en réseau ou là, pour le coup, en inter-réseau, parce que ce n'est pas un gars d'RNC. Ce n'est pas de sa faute non plus. Personne n'est parfait. Voilà, je ne sais pas s'il y a une... Ah mais en fait, on se crée en statut de coopérative, on est forcément couvert, chaque métier est couvert par la Massif, parce que c'est la seule à le faire. Et d'ailleurs, c'est très peu cher, puisqu'une assurance pour un auto-entrepreneur, c'est au moins 2,5% du chiffre, c'est le minimum. Nous, on est à 0,8% du chiffre, donc c'est imbattable. Voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas du monde de l'entreprise, ça fait un peu barbare tout ça, mais ce que vous devez retenir dedans, c'est qu'on crée une entreprise à partir de notre église, parce qu'on l'a travaillé en tant que groupe et qu'on a prié dessus, on a réfléchi, même ceux qui n'étaient pas du tout du monde de l'entreprise, et je me rappelle des premières réunions, une dame qui s'appelle Martine dans notre église qui disait, mais Luc, mais pff, tu me perds. Mais non, Martine, on y va ensemble. On a fait des cours de rattrapage, on a été regardés. Puis une fois qu'elle était convaincue que ça sortait de la Bible, du jubilé, parce que l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui, c'est juste dans les racines de la Bible, c'est juste phénoménal. Et je rappelle quand même que Jésus, en arrivant sur Terre, il commence son mandat en disant qu'il est le jubilé lui-même. Ça en dit long. Alors on peut toujours spiritualiser le jubilé, mais il est d'abord très concret et très économique, politique, sociétal. Donc du coup, quand on a bien travaillé dessus, Guillaume, c'est énorme ce truc-là, hein. C'est énorme ton truc. Non Martine, c'est notre truc. Et puis au bout d'un moment, elle se l'est tellement accaparée que c'est son affaire. Et régulièrement, si je ne donne pas des nouvelles toutes les 3 semaines, elle me dit, bon, ça en est où là, Luc, les dernières infos du jour là? Ouais, oh, ouais Martine, c'est bon, je te les donne. Voilà, ça, c'est... elle a tellement essayé d'accaparer le truc. Dans le sens que moi je suis dans RNC, oui, mais ce n'est pas une coopérative d'RNC pour le moment. C'est une coopérative qui va rejoindre le réseau RND. RND, ce sont les œuvres dans RNC. Pour faire court, hein, comme la loi nous oblige, comme dans nos églises, il y a le cultuel et le culturel. Le cultuel, c'est RNC, le culturel, c'est RND. Donc tout ce qui est entreprise, développement d'association, c'est RND, que moi je préside aussi. Donc forcément, on va faire le lien. Ce que nous, on apprend sur la coopérative qu'on est en train de créer va servir RND et ce qu'on fait dans RND va nous servir dans notre coopérative. Voilà. Mais ce n'est pas un projet d'RND ou d'RNC au départ. Mais forcément, ça va venir abonder la famille RNC et on est assez fou pour rêver qu'on va créer une dizaine de coopératives dans les 5 ans qui viennent. Alors, pour la coopérative de Lens, c'est notre église. Mon église s'appelle Connect, donc c'est notre projet de Connect, notre église. Et après, il y a le projet d'RND, qui là est un projet de... On aimerait pouvoir créer 10 coopératives. Et donc, en tout cas, on en a 3 dans les starting blocks, dont celle de Lens. C'est pas une coopérative, c'est une... Enfin, elle relève de l'ESS parce que c'est une association, puisque dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, il y a les coopératives, les associations et les fondations. Comment ? Je t'ai perdu ? Mais il y a pas, hésite, n'hésite pas, je peux. Mais ou dire, dis-moi. Non, mais c'est pas un problème. Ah, c'est RNC, RND, c'est tout ça. Alors, l'ESS, économie sociale et solidaire, donc c'est ça qui est issu de l'économie du jubilé. Et l'ESS, mais moi, je veux dire, j'en ai plein aussi sur mon ordinateur, mais j'étais parti par juste un exemple, mais effectivement, il y aurait de quoi dire. Donc, attends, redis-moi la coopérative, qu'est-ce qu'on allait dire ? Ah oui, alors c'est une plateforme, c'est une plateforme, c'est pas vraiment une coopérative. Oui, c'est une épicerie solidaire qui s'est tellement développée. Oui, elle a englobé d'autres épiceries solidaires et c'est devenu une plateforme, c'est la quatrième nationale. Il y a les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, enfin la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, je ne sais plus l'autre, et puis il y a la nôtre. RNC est arrivée numéro 4 dans les plateformes, c'est juste énorme. On n'en fait pas de bruit pour le moment. Mais dès qu'on a mis RND, donc RND, c'est le pendant d'RNC pour les œuvres et les entreprises, et RND va devenir une coopérative. Allô, je vais tomber. Donc RND va avoir un statut de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dans lequel on peut faire des dons personnels, des dons d'associations, des dons d'entreprises, des dons pour défalquer des impôts et aussi des subventions publiques. Ou des dons de fondations qui sont sans retour, sans contrepartie. Donc en fait, la SIC récupère toutes les formes d'argent qui existent dans la société, ce qui n'est pas possible pour une entreprise aujourd'hui. Donc là, on rentrait dans les choses très techniques, mais c'est pour dire qu'en tout cas, il y a une marge de progression juste gigantesque. C'est huge, c'est énorme, c'est à donner le tournis. Donc RND... Parce que sinon, ce serait trop simple, ce ne serait pas marrant. RND est en train de créer une plateforme de crowdfunding en parallèle. Et cette plateforme de crowdfunding, elle est là pour abonder dans des projets, d'abord de nos églises RNC, du monde évangélique, et on va dire pour faire large, du monde protestant. On aura des projets catholiques, ce n'est pas gênant, mais on va d'abord favoriser les projets plutôt protestants. Les deux. Et on veut qu'il n'y ait pas trop d'associations, parce qu'on sait qu'on va en avoir plein, donc on ne va pas dire non aux associations. Par contre, chaque association qui déposera un projet, on va dire, c'est pas parce qu'on est copains et parce que mon cousin est frère avec ta cousine, qu'on va te financer. Tous les amis chrétiens sont bienvenus pour les projets, après on les traite de façon professionnelle. Ton projet ne tient pas la route, on te dit, pour le moment, on ne va pas financer ton projet, parce qu'on ne veut pas financer du schmla. On veut des trucs sérieux, professionnels, qui donnent un sens aussi à la société. Donc, ces projets de financement, et donc on ne va pas dire non, parce que dans une plateforme de crowdfunding, si ton projet il est dégagé, nous on va dire, écoute, ce n'est pas encore le moment, mais on peut t'accompagner. On a des gens qui sont formés, qui ont des diplômes, donc on va t'accompagner dans ton projet, et dans 6 mois, tu nous reviens avec un projet ficelé, bétonné, et on le mettra sur la plateforme. Donc, ce n'est pas un non, on n'en veut pas, c'est tout de suite, c'est pas mûr. Et donc, ça veut dire que si l'église d'Aubergenville fait le choix de fabriquer un moteur à eau et que vous avez ce projet de dingue, parce que vous avez des ingénieurs, des bricoleurs, enfin bref, on dira, si votre truc il tient la route, si un vrai projet, si c'est motivé, si c'est politique dans le sens d'une intention, alors oui, on va le faire mettre sur cette plateforme et on va vous aider à monter des dossiers pour des demandes de financement public, parce qu'on a le droit de récupérer l'argent public même pour des projets chrétiens. Parce que c'est ce que David a fait avec le temple de Dieu. Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qui est en mouvement. Et donc, effectivement, tout ça, en fait, c'est RNC, tout ça. Nous, pour nous, c'est la même boîte, sauf qu'à cause de la loi, on est obligé de scinder en deux. C'est ça qui complique la tête et qui fait des nœuds dans l'estomac. Mais c'est bien la même chose. Donc, RNC, on a un président. RND, on a un président. Pour le coup, c'est moi, pour le moment. C'est pas Vita Aeternam. Je veux dire, donc, on a deux présidents, mais en fait, c'est la même structure. Et RND est complètement dépendant d'RNC. Hein. C'est pour trouver les moyens. Voilà. Et donc, on est déjà... je pense que ça va aller vite le jour où on crée la coopérative. Moi, on me propose de monter à Paris ou de descendre à Paris pour traîner dans le cabinet du... C'est pas enregistré, ça. C'est enregistré ? On peut juste couper, s'il te plaît. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et donc, les tulipes que j'ai cueillies ce matin dans le jardin étaient magnifiques. Elles étaient un peu rouges, mais avec un peu de coloris vert dessus, ça devrait être très, très sympathique. Et je pense qu'avec une colonie de fourmis qu'on implante sur la Lune, ça devrait le faire. Est-ce que je peux arrêter de parler dans le vide ? Ça, c'est enregistré, par contre. Et là, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui se dit « Malheur, je savais qu'il était fou, mais là, c'est irrécupérable. » Merci.